Au rythme du ciel, l'émission de Sylviane Attar. Bienvenue dans l'émission Au rythme du ciel, une émission qui traite de différents sujets au rythme des saisons et des signes du zodiaque. Pour cette émission, nous sommes au cœur de l'automne avec deux signes du zodiaque, le scorpion et le sagittaire. Deux signes qui nous invitent au dépassement de soi. Voilà, deux signes qui nous disent « dépasse tes limites, dépasse les limites de ta nature inférieure pour être davantage créateur ». Avec le scorpion, eh bien, nous sommes au cœur de la transformation. C'est un signe qui nous encourage à transformer nos défauts en qualités. Et le sagittaire, qui suit tout de suite après, est souvent représenté comme un être mi-homme, mi-animal, qui, avec son arc et sa flèche, vise une étoile, vise un but élevé. Et ce signe, il nous encourage à viser haut, à avoir un haut idéal, une noble cause, qui va nous aider justement à maîtriser notre nature inférieure, se libérer de nos limites. Donc c'est intéressant et ce sera le sujet de cette émission puisque nous allons approfondir ce rapport entre l'homme et l'animal. Et pour cela, nous avons une invitée avec nous à cette émission, c'est Sylvie Poletto qui est très engagée dans la cause animale. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sylviane, bonjour à tous.
Bienvenue dans notre émission. Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors voilà, donc en fait c'est vrai qu'à l'époque on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'ai éprouvé une grande sensibilité par rapport à la cause animale. J'ai éprouvé beaucoup d'empathie et de compassion par rapport à la souffrance que ces animaux pouvaient ressentir à travers nos activités humaines notamment. Et donc c'est vrai que depuis toujours j'ai cette sensibilité par rapport à ce sujet. Après, j'ai fait des études, j'ai occupé différentes fonctions. Et là, à travers mes différentes expériences professionnelles, je me suis prise de passion pour la vidéo. Et j'ai souhaité mettre mon savoir-faire en vidéo, donc au service de la cause animale. Alors, récemment, j'ai créé un site internet qui s'appelle rennature.com, sur lequel je dispose des articles qui traitent de différents sujets pour sensibiliser les gens ou peut-être même leur donner des idées pour agir en faveur de la nature et des animaux. Et surtout, je vais rencontrer des professionnels, que ce soit à la fois des producteurs, des éleveurs, des entreprises, des associations, il y a même des thérapeutes, et qui, à travers les reportages pédagogiques que je réalise, explique leur manière de travailler en symbiose avec l'humain et l'animal, le respect de l'animal. Ce qui, pour moi, de toute façon, va de pair, puisque le respect de l'un passe par le respect de l'autre. Mmh. Et donc, Donc, si vous avez envie d'aller jeter un œil, n'hésitez pas.
Oui, on fera effectivement. Donc, pour ce premier volet, nous allons faire un état des lieux du rapport entre l'homme et l'animal actuellement. Et donc, Sylvie, tu pourras nous parler de l'état actuel dans le monde. Et moi, je donnerai un point de vue plus psychique avec l'astrologie. Et donc, est-ce que tu peux justement nous dire où en est ce sujet dans le monde ?
Alors, moi, je suis vraiment très très contente de voir qu'il y a une ouverture de conscience de plus en plus rapide et de plus en plus massive à travers la population. Donc, les gens se rendent compte tout de même au fil du temps, mais que les animaux, c'est pas juste des objets, c'est des êtres sensibles qui ont des émotions et qui eux-mêmes ont leurs besoins qui leur sont propres. Et donc, je suis déjà très positive par rapport à ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'informations qui transitent qui avant n'étaient pas disponibles. Donc, je pense aux vidéos chocs qui sont diffusées sur Internet de plus en plus fréquemment. Et donc, ça permet aux gens de se faire une idée des coulisses. Et je trouve ça vraiment très intéressant pour se faire une idée soi-même et d'agir en conséquence. Il y a aussi beaucoup d'associations qui agissent au quotidien et qui, grâce à leurs actions répétées, font quand même bouger les lignes de conduite. Donc tout ça, c'est très positif. On voit aussi, bon, régulièrement que les gens, bah, avec leurs animaux, bah, la plupart, ils considèrent leur animal, que ce soit chien, chat, comme un membre de la famille, où les gens essayent de faire au mieux pour que l'animal se sente bien. Et malgré tout, ben, on sait tous que ben, la maltraitance est toujours là. Alors, il y a la maltraitance, à mon sens, il y a maltraitance volontaire, où on voit quand même qu'il y a les abandons, la violence, hein, la violence physique.
Oui, il y a beaucoup d'abandons, en fait.
Il y a beaucoup d'abandons encore.
D'animaux. Hein.
Tout enfin, à fait.
Justement, souvent pour les vacances et tout.
Exactement.
Donc,
voilà, donc il y a la maltraitance qui, à mes yeux, est voulue, volontaire. Et puis, il y a la maltraitance non voulue ou ignorée, à savoir, par exemple, si on attache un chien toute la journée, jour et nuit, à une corde, sans niche, ben, les personnes n'ont peut-être pas les mêmes repères, la même sensibilité. Et pour eux, ben, c'est pas forcément causer de la maltraitance aux animaux. Donc, pour moi, il y a différents types de maltraitance. Après, pour les animaux sauvages, ben, c'est sûr que on sent quand même que les gens aiment le contact avec la nature, avec les animaux. Il y a quand même une certaine admiration. On sait tous que se balader dans la nature, ben, ça fait du bien. Voilà. Après, c'est vrai qu'on sent aussi une certaine pression par rapport à la nature, puisqu'on a toujours tendance à stigmatiser des animaux. Par exemple, on dit, voilà, le renard est nuisible. Bon, à quel titre ? C'est vrai que l'homme intervient beaucoup dans l'organisation de la nature qui n'a pas forcément besoin de nous. Et ben, on a tendance à oublier qu'en fait, la nature est très bien faite et que ben, les espèces s'autorégulent si on ne met pas notre grain de sel dans l'organisation telle qu'elle est.
Donc, ça veut dire qu'en fait, par exemple, c'est le problème de la chasse.
Oui, tout à fait, par exemple. Donc, on voit quand même qu'il y a une grande mobilisation actuellement des citoyens autour de la chasse. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent, bah, parce que déjà ils ont envie d'aller profiter de la nature. La nature, c'est un endroit paisible, et c'est vrai qu'entendre des coups de feu, des chiens, des cornemuses, etc., c'est pas forcément l'apaisement qu'on souhaiterait. Bon, après la chasse, c'est vrai que derrière la chasse, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens malheureusement ne savent pas encore ou ne s'est pas encore vraiment montré clairement. C'est sûr que si on entretient une surpopulation d'animaux, ben on a une surpopulation d'animaux. On a déjà traqué le loup, exterminé le loup. Si en plus on introduit des gibiers qui sont élevés en cage, en plus, notamment je pense aux sangliers, puisqu'on dit souvent les sangliers, il y en a trop. Ben, les sangliers, par exemple, ben, on met des sangliers d'élevage dans la nature. On les nourrit, alors que si on les nourrissait pas, ben, la sélection naturelle se ferait automatiquement. On a tendance à les croiser aussi avec des cochons. Il y a eu beaucoup de croisements, donc du coup, les cochons ont plus de petits que les sangliers, donc ben, ça surpeuple aussi les forêts.
Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on se prend un petit peu comme des apprentis sorciers et on commence à comme déséquilibrer l'harmonie de la nature en croisant des animaux entre eux, et en fait c'est ça qui apporte le déséquilibre, c'est pas l'animal en lui-même.
Alors certainement que, bon, je ne dis pas, par exemple dans le canton de Genève, ça fait près de 50 ans que la chasse est interdite, cependant ben, c'est vrai que parfois, donc il y a une dizaine de gardes assermentés qui ont des armes de pointe vraiment pour faire le moins de stress, causer le moins de stress aux animaux, de temps en temps ils doivent intervenir parce qu'il y a un peu de dégâts qui sont faits par les sangliers notamment. Mais je veux dire, si on regarde l'état général de la biodiversité, elle se porte à merveille et la régulation n'est absolument pas nécessaire, sauf cas vraiment exceptionnels. Donc, si on laisse faire la nature, c'est comme les renards, bon, on les traque, on les piège, on les déterre, etc. Le renard, s'il n'y a pas de nourriture, il ne va pas se reproduire ou il va se reproduire beaucoup moins. Ben, le sanglier, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça sur le compte d'une autorégulation, la chasse. Or, la chasse, c'est quand même un loisir, avant tout, une passion. Il faut savoir aussi que derrière la chasse, il y a les enclos de chasse. Et ça, c'est terrible quand on se met à la place de l'animal qui est traqué à l'intérieur de l'enclos, qui ne peut pas s'échapper. Et il y a des gens qui tirent sur les animaux alors que tout est hermétique et que les animaux n'ont même pas la chance de pouvoir s'échapper.
Donc, c'est cruel,
même pour l'entraînement des chiens, parce que les chiens de chasse, faut les entraîner, donc on va dans des parcs, on met les chiens, ils courent après les sangliers, ils les blessent, il y a des blessures à la fois des chiens, mais aussi des sangliers, du gibier, de manière générale. Et donc, ben, toutes ces pratiques, on ne peut pas dire que ce soit la régulation de la biodiversité, puisqu'il y a énormément de souffrance derrière tout ça.
On retrouve aussi dans tout ce qui est élevage intensif, qui est quand même très développé encore.
Tout à fait.
Là, il y a vraiment beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça?
Ah ben, d'ailleurs, c'est vrai que la chasse, bon, voilà, je dis ça, mais l'élevage intensif, c'est pas mieux du tout, puisque c'est vrai que l'élevage intensif, ben, concerne à la fois les animaux élevés pour l'alimentation, mais également pour la fourrure. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un marché qui est très juteux, la fourrure. Les animaux, ben, sont captifs dans des conditions lamentables qu'on ne souhaiterait jamais, si on le voit de près, une quelconque espèce. Certains animaux ne verront jamais le jour, à part le jour où partent à l'abattoir. Enfin, bon, c'est vraiment la négation des besoins même de l'animal en tant que lui-même.
En tant qu'être vivant.
En tant qu'être vivant, voilà. Donc, c'est vrai que, à côté de ça, parce que je voudrais pas être trop noire non plus dans mon discours, à côté de ça, il y a des producteurs qui sont très respectueux, et j'ai d'ailleurs la possibilité de les rencontrer dans le cadre de mon activité. Et bon, ben voilà, donc ça c'est important aussi de signaler qu'il y a des gens qui œuvrent pour le bien des animaux. Voilà.
Donc oui, moi ce que je voudrais en fait ajouter dans le point de vue plus psychique et en lien avec l'astrologie, c'est qu'en fait, c'est vrai que dans le rapport de l'homme à l'animal, ben nous, dans notre société, dès petits, à l'école et depuis Darwin, eh bien, on nous serine que l'être humain descend du singe. En fait, on apprend ça à l'école, que l'homme est un animal, en fait. Hein. C'est vrai que on a été éduqué avec cette croyance qui n'est qu'une croyance, puisqu'en fait, elle n'a même pas été vraiment vérifiée. Et en fait, c'est pas anodin. Parce qu'en fait, profondément, si on est persuadé que nous sommes un animal, eh bien, pourquoi on voudrait se dépasser et maîtriser notre nature animale si on est un animal? C'est un non-sens. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très important à se questionner par rapport à ça. Et c'est vrai que si on s'intéresse à la sagesse spirituelle, qu'on retrouve aussi en astrologie, eh bien là, en fait, l'être humain est considéré comme un être spirituel qui s'incarne dans la matière, mais c'est un être spirituel qui est porteur de lumière, d'amour, de vérité. Il s'incarne dans la matière pour accomplir une mission de vie, pour atteindre un but, et sur la Terre, il a un chemin d'évolution. Et pour atteindre son but, eh bien ça va lui demander de maîtriser sa nature inférieure, sa nature animale. Donc c'est vrai que c'est un autre état d'esprit. On voit pas les choses de la même façon. Et donc, bon, ce qui peut être intéressant, c'est de redéfinir effectivement qu'est-ce qu'on appelle la nature animale qu'on retrouve chez les animaux et aussi en l'être humain. Eh bien, ça va regrouper tout ce qui est émotionnel, puisque les animaux, je pense que Sylvie, tu peux le confirmer, c'est vrai que les animaux ont des émotions, ont une sensibilité, on le voit.
Tout à fait.
Donc, il y a toute cette dimension des émotions, il y a tous les instincts, donc la peur, le côté prédateur, on retrouve les passions, enfin voilà, il y a toute cette dimension dans la nature, dans un animal, sauf que l'animal, il est régulé par la nature, par une sagesse naturelle. L'animal, il est forcément en harmonie avec la nature. Tandis que chez nous, en tant qu'être humain, eh bien, on porte aussi toute cette dimension des émotions, des instincts, des désirs. Sauf que nous, on a aussi en fait un corps mental. On a une pensée, et c'est vrai qu'on a une capacité de pouvoir raisonner nos émotions, raisonner nos désirs et nos instincts. Donc, et on voit que c'est tout un défi puisque là, par exemple, nous sommes actuellement dans une société de surconsommation. Et la surconsommation, c'est comme si elle montre en elle-même qu'on se laisse trop prendre par les désirs, par le fait de vouloir surconsommer, de prendre, au lieu de donner. Donc, et ça, c'est une responsabilité de l'être humain. C'est que on a une capacité, un libre arbitre, des choix qui ont des conséquences. Et c'est vrai que ça va poser le problème de l'éthique. L'animal, il n'a pas à se poser le problème de l'éthique. Un animal, il pourra jamais détruire la planète. Je pense que ça, tu peux vrai, vraiment le confirmer. Tandis que l'être humain, aujourd'hui, il est capable de détruire la planète. Donc, on le voit, il est responsable. Cette conscience de l'éthique, ce libre arbitre, ce choix qu'il doit faire consciemment, parce qu'il peut penser, en fait, ses actes, eh bien, ils ont des conséquences sur le futur de la planète. Sur la planète, la nature et tout ce qu'elle contient. Et c'est vrai que si on rentre dans cette dimension de responsabilité, eh bien, ça va comme nous aider à ressentir en tant qu'être humain qu'on a aussi un rôle de protecteur, de protection. Et qu'en fait, c'est à nous de protéger la planète, de protéger la nature, de protéger la faune, donc les animaux, et de protéger la flore, en fait. Donc, c'est vraiment important de se re-questionner sur la place de l'être humain et, en fait, sa responsabilité. Voilà, donc pour moi, c'était important, en fait, d'évoquer ça et ce que contiennent notamment ces signes du scorpion et du sagittaire qui nous mettent face à cette responsabilité qu'on est un être mi-homme mais avec une part divine qu'on doit révéler à travers plus d'amour, plus de vérité et d'apprendre à maîtriser notre nature inférieure, pas laisser libre cours juste à nos instincts et à nos désirs. Donc voilà. Et c'est en fait, ça va faire le pont avec la pause musique. Donc une chanson de Alain Souchon qui s'appelle Pardon. Et en fait, c'est vraiment l'être humain qui demande pardon à la nature, à la faune, à la flore, pour justement des actes inconséquents, en fait. Donc voilà. Et donc, nous allons écouter Alain Souchon et Pardon.
Oh, libellule si délicate, oh, les mésanges, petites pattes, gentil coquelicot, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans nos bépines, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aime, le vent les aime. Colline fatiguée, pleine, plate.
Nous reprenons l'émission Au rythme du ciel, hein, toujours en compagnie de Sylvie Poletto, pour ce sujet du rapport de l'homme à l'animal. Et donc là, nous abordons la deuxième partie de notre émission qui sera consacrée aux solutions pour améliorer la relation homme-animal. Voilà, créer une réconciliation. Et Sylvie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme solution ?
Alors déjà, c'est vrai que la base, à mes yeux, c'est vraiment d'avoir de la compassion, de l'empathie vis-à-vis des animaux et de autant que possible se mettre à leur place. C'est vrai que quand on a des animaux domestiques chez soi, bon, la plupart du temps, ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il y a quand même parfois des problèmes qui peuvent survenir. Notamment, bon, je parle de moi parce que je l'ai vécu avec un animal qu'on adopte. Il y a un vécu derrière, il peut y avoir des traumatismes. Et parfois, on va contraindre l'animal sans chercher à comprendre ce qui lui arrive. Et c'est important, à mes yeux, de faire le point par rapport à ça et, de, s'il le faut, de faire appel à des professionnels qui sont là vraiment pour aider à améliorer la situation. Donc, je pense par exemple aux comportementalistes qui ont la technique positive, donc pour ne pas uniquement contraindre l'animal, mais essayer de trouver des solutions avec les responsables pour améliorer une situation, mais qui est basée sur la récompense, sur le contact avec des congénères. Donc, on va voir plutôt la récompense plutôt que de contraindre l'animal, par exemple avec un collier, etc., collier électrique. Et puis, à côté de ça, il y a aussi la communication animale. C'est une technique qui est assez récente et qui se développe beaucoup, où là, via une technique qui s'apprend, hein, puisque je suis en train de l'apprendre moi-même avec Rema Olivares, qui est vraiment très compétente en la matière et que je suis contente d'avoir rencontrée, pour vraiment aller au-delà du physique. On va se connecter avec une méditation particulière aux sensations, aux émotions que l'animal ressent au sein du foyer. Et là, ça peut vraiment donner des bons résultats, puisqu'on peut parfois débloquer des situations, voir qu'est-ce qui perturbe l'animal, et ça peut même parfois être lié aux problématiques rencontrées par les responsables eux-mêmes. Donc, c'est un travail qui est à la fois sur les personnes qui ont un animal et sur l'animal en lui-même. Et ça peut vraiment donner de très bons résultats.
Oui, en fait, c'est là où on voit le lien entre l'homme et l'animal. C'est que l'animal, ben, il va nous renvoyer en miroir notre part animale aussi. C'est pas anodin.
Tout à fait.
Si par exemple on a un animal qui est agressif, hein, qui est en colère, qui porte particulièrement une agressivité, ce serait vraiment intéressant que le maître, le propriétaire, se questionne sur sa propre colère. Mmh. Soit il est énormément en colère et il s'en rend pas compte. Ou alors il l'est vraiment, ou effectivement il la refoule énormément. Enfin, il y a vraiment une interaction. Je trouve ce qui est intéressant dans tout ce que tu viens d'évoquer, c'est le fait de voir que l'animal, c'est pas un objet en fait, hein. C'est vraiment un être vivant, et c'est de le considérer comme un être avec une sensibilité. Hein.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand un animal nous choisit ou nous on choisit un animal, c'est jamais par hasard.
Mais oui,
c'est un peu dommage de passer à côté des signaux qu'ils nous transmettent, parce qu'ils ont beaucoup beaucoup à nous apporter, et c'est bien d'en être conscient.
Oui, et puis ça permet de revoir cette dimension de la responsabilité, cette interaction et la responsabilité.
Et c'est ça, et par rapport à la responsabilité aussi, j'avais envie de dire que si on a envie d'adopter un animal, déjà il y a tous les refuges avec des animaux à adopter, peut-être aussi faire attention là où on adopte, parce que bon, sur Internet, il y a des élevages aussi qui sont pas très très conformes. Donc c'est important d'aller dans un refuge ou chez quelqu'un de confiance pour adopter un animal. Et puis aussi, bien faire le point avant d'adopter un animal sur ma situation. Donc, si on a une situation professionnelle où on n'est jamais là, ben voilà, est-ce que telle race de chien, ben ça va convenir ou ça va pas convenir. Les besoins d'un berger allemand ne sont pas les mêmes qu'un chihuahua. Et donc, c'est important en amont de faire le point par rapport à ça pour éviter par la suite ben, soit l'abandon ou la maltraitance.
Donc, oui, c'est toujours un problème d'irresponsabilité.
Ouais. Voilà, bon, ouais. Après, s'informer un maximum, c'est vrai ça. Que c'est important pour combler les besoins de l'animal. Après, c'est vrai qu'au niveau des animaux sauvages, ben, on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le respect de la vie, de la nature. La nature est faite telle qu'elle est. Et puis, chaque animal, chaque être vivant est à sa place. Donc, c'est important de respecter ça. Et puis aussi d'inviter la nature chez soi, parce que c'est vrai que avec l'urbanisation croissante, ben il y a de moins en moins de place pour la nature. Pourquoi ne pas l'inviter chez soi par des petits gestes, chacun peut le faire.
Oui, c'est une façon de reprendre contact avec la nature, en fait, c'est ça.
C'est ça.
C'est en fait de réconcilier l'être humain avec son environnement.
Tout à fait.
Qui fait que bon, tu le dis mieux que moi, en fait, hein. Mais en fait, bah, tous ces problèmes, c'est comme une insensibilité parce qu'en fait, on est coupé. Comme si on se rend plus compte qu'on a un lien avec cette nature, en fait. Et donc, forcément aussi avec l'animal.
Tout à fait. Et puis, non seulement ça, on croit toujours que le changement va venir de je ne sais pas où. Mmh. Or, bah, on a tous la possibilité de mettre des petites actions, même la plus petite soit-elle, pour améliorer les choses, pour faire venir les insectes chez soi, les oiseaux, respecter tout simplement la vie et vivre avec, en fait, puisque pas avoir peur de la nature, parce que parfois, c'est vrai que même les insectes, j'ai déjà vu des personnes, voilà, on voit un insecte par terre, on l'écrase. Bon, ben, pourquoi on l'écrase? C'est vrai que c'est une vie. Certes, il fera pas des calculs, hein, l'insecte, hein, mais c'est une vie, et s'ils sont sur terre, ben, c'est pas pour rien, donc je pense que chaque vie a droit au respect, en fait. Voilà. Après, pour les animaux d'élevage, c'est vrai que bah, la consommation, tu en parlais tout à l'heure, on est quand même dans une société de consommation à outrance. C'est pas mal aussi de garder en tête, voilà, quand j'achète quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est vrai que si on achète une barquette de 20 cuisses de poulet à 5 euros, ben, on se doute bien que les poulets, c'est pas du plein air et c'est pas un élevage qui va permettre l'épanouissement des poulets.
Oui, c'est donc, ce que on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça va être les poulets en batterie, l'élevage voilà. intensif, où là, on respecte pas du tout l'animal, même c'est cruel.
Tout à fait. Et quand on voit par exemple les élevages de cochons, c'est pareil. Les cochons, c'est hyper sensible. Les capacités cognitives et la sensibilité se rapprochent vraiment du chien, du dauphin. Même ils ont des similitudes avec les êtres humains. Et 95% des cochons sont en élevage intensif. Pour avoir visité un élevage où les cochons sont en plein air, ben on sent vraiment que les cochons ils sont bien. Bon après, je c'est pas parfait puisqu'il y a quand même encore l'abattage derrière qui est une grosse étape. Mais je veux dire, la vie des cochons pendant qu'ils sont là, ben la vie c'est leur vie quoi. Ils jouent ensemble, les mères sont avec leurs petits, ils peuvent fouiller. Enfin, leurs besoins sont comblés pendant leur vie. Et ça c'est hyper important. Donc quand on achète quelque chose, que ce soit du jambon sous vide ou des cuisses de poulet comme je disais hein, à bas prix, ben voilà, on mange toute cette souffrance aussi. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte, voilà. Parce que c'est quand même le consommateur qui, au final, a le plus de pouvoir d'agir dans son mode de consommation. Et quand je parlais des élevages de fourrure, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand on parle de fourrure, on pense au manteau de fourrure. C'est vrai qu'on en voit très peu, on en voit de moins en moins. Mais il suffit d'avoir de la fourrure sur son col ou sur la bordure d'une capuche. D'avoir un porte-clés avec un tout petit peu de fourrure, ben voilà, c'est cautionner ces élevages atroces, voilà, d'animaux qui sont élevés juste pour leur fourrure et dans des conditions abominables.
Oui, on retrouve un petit peu ce qu'on évoquait, cette société de surconsommation où en fait il y a beaucoup de futilité et on se rend pas compte de qu'on tue des vies pour des aspects très futiles, quoi.
C'est ça,
c'est irresponsable, c'est égoïste, enfin, il faut le dire, quoi. Et ça a des conséquences très destructrices.
Ben oui, et puis l'étiquetage des vêtements. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas, parfois, si ça se peut, on commande des vêtements en Chine et on a du chien sur soi sans le savoir. Donc, c'est vraiment important. On a les possibilités aujourd'hui de s'informer, vraiment d'être attentif à tout ça pour éviter d'alimenter, même sans le vouloir, ce genre de souffrance. Après, c'est vrai que moi, pour moi, la souffrance animale, ben, ça passe aussi par la réduction individuelle des produits d'origine animale. C'est vrai que malgré tout, on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Et si on veut réduire la souffrance animale dans les élevages, ben, ça passe par une diminution. Alors, je dis pas que tout le monde doit être vegan demain, mais une diminution de la consommation des produits d'origine animale, quelle qu'elle soit, à savoir la viande, le lait, parce que le lait, souvent, on se rabat sur le lait, mais ça cause énormément de souffrance aussi pour les animaux.
Oui, et puis quand on est adulte, c'est pas forcément bon de...
Ben oui, 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 le fromage aussi, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est oui, vrai que... Oui. Et donc, ben, disons que si tout le monde déjà diminue ça, c'est vrai qu'à l'époque, souvent on entendait, oui, le vegan, c'est celui qui mange des carottes crues et de la salade. Bon, ben, aujourd'hui, si vous regardez recettes vegan, enfin, moi-même, j'en essaye et on peut vraiment se régaler et tromper même ses invités. Parce que récemment, on a fait un hamburger vegan à la maison. Il y avait un invité qui adore la viande et qui a été bluffé. Mmh. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de, ben, d'aller voir les recettes et pourquoi pas improviser. Hein. Donc, voilà. Et c'est vrai que derrière chaque nuggets, il faut se dire aussi, derrière voilà, chaque aliment, ben, il y a des vies. Donc, c'est important pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a aussi tout le côté... ben, loisir, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas trop. Celui qui a envie de faire du cheval, ben, peut-être voir si le centre équestre traite bien les chevaux, le zoo, est-ce que les animaux sont bien traités, tous ces loisirs, donc qui, ben, la corrida, n'en parlons même pas, puisque la corrida c'est un loisir, enfin ça dépend pour qui, mais je veux dire, bon, ce sont des loisirs, est-ce bien utile d'alimenter de la souffrance? Par exemple, on va en vacances monter sur un dromadaire, est-ce bien utile? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à mes yeux qu'on peut chacun modifier dans sa façon d'agir au quotidien. Et c'est vrai que je parlais de la fourrure tout à l'heure, mais je rebondis là-dessus. Les lapins angora, ben, quand on sait que tous les 100 jours on les épile à vif, donc pour prendre juste leur pelage pour faire ensuite des pulls, etc. Mais imaginons qu'on aille chez le coiffeur et au lieu de nous couper les cheveux, on nous arrache les cheveux par poignée. Mmh. Et donc, ben, ils vivent comme ça pendant des années. Tous les 100 jours, on les épile à vif et ils hurlent de douleur. Et bon, voilà. Donc, c'est vraiment important de bien regarder quand on achète quelque chose derrière tout ce qu'il y a. Après, juste une dernière petite chose, c'est vrai qu'on ne pourra pas supprimer la souffrance sur la Terre, puisque de toute façon, la souffrance, elle fait partie de ce monde, et même les animaux entre eux, ils ne sont pas si marrants que ça. Hein. Mais je pense que l'homme a quand même un potentiel qui permet de s'améliorer par rapport à ça. Et je voulais dire aussi que parfois, on peut se sentir très seul quand on opère des changements dans sa façon de voir les choses, de ressentir. Je pense notamment au chasseur, par exemple, ben, qui est dans une famille de chasseurs depuis des générations. S'il a une prise de conscience, ben, peut-être qu'il se sentira mal parce qu'il est seul à prendre conscience que ça ne lui convient plus. Et donc, dans ces moments-là, ça peut aider quand même de rencontrer des gens ben, qui opèrent les mêmes changements ou qui ont les mêmes valeurs. Ça peut aider à se respecter, à respecter son changement à soi. Et notamment, pourquoi pas s'investir dans des associations. Il y en a tellement, et c'est le parent pauvre, ils ont tellement peu de moyens, ces gens. Ça peut être une possibilité pour se respecter et aller de l'avant avec de nouveaux changements et des nouvelles perspectives. Et je pense que c'est important de ne pas se sentir en minorité et de ne pas rester dans les anciens schémas parce qu'on se sent sous tension ou sous pression par rapport à son entourage.
Oui, donc tu nous as donné quand même beaucoup de solutions mais qui passent par un changement dans son mode de vie, en fait, hein, au quotidien. Et c'est vrai que de toute façon, on est dans une situation où c'est important de remettre en question fondamentalement les valeurs sur lesquelles on a fonctionné jusqu'à maintenant, en fait.
C'est vrai que, excuse-moi, les poissons, on n'en parle pas, les insectes non plus, mais là aussi, il y a une pression, les poissons. WWF a mis en ligne une liste des poissons où, justement, ils poussent les gens à varier, en fait, leur menu pour pas faire la pression sur les mêmes variétés de poissons en permanence, puisqu'il y a des poissons comme le saumon, le cabillaud, etc. Il y a une pression telle sur eux qu'ils sont en surpêche et, ben voilà, donc c'est bien aussi de s'informer et de rester vigilant par rapport à nos habitudes et à ce qu'on pourrait aussi nous donner comme information, parce que voilà, c'est important.
Oui, puis ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Bon, comme tu dis, la surpêche et tout ça, c'est que on est arrivé à un stade de surconsommation, mais on n'a pas besoin de consommer autant.
Mais oui,
et donc on appauvrit la nature, on appauvrit, on tue les animaux et c'est du gaspillage, sauf qu'il y a une destruction derrière. Mm. Et là, on peut plus continuer comme ça.
Non, surtout que bon, des espèces sont vraiment menacées.
Oui, il y a beaucoup d'extinctions d'ailleurs d'espèces.
Hein. Voilà, et le gaspillage, quand on voit les étals de poissons, ça va beaucoup mieux parce que les magasins ont quand même changé leur façon de faire, mais il y a encore beaucoup de gaspillage, et même chez les particuliers. Donc chaque morceau de viande, chaque poisson jeté à la poubelle, bah, c'est une vie qu'on jette à la poubelle. Donc c'est important aussi de gérer ces aspects-là à mes yeux.
Mm. Bon, merci Sylvie pour toutes ces solutions. Et nous allons continuer avec une pause musique. Donc là, nous avons choisi Michel Delpech et la chanson Le Chasseur. Et donc, qui est intéressante puisque c'est un chasseur qui retrouve sa sensibilité et qui s'émerveille des animaux qui auparavant il tuait.
Il était 5 heures du matin. On avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages.
Donc, nous sommes à la dernière partie de cette émission sur le rapport de l'homme à l'animal et toujours en compagnie donc de Sylvie Poletto. Donc, moi, je voulais intervenir justement dans ce point de vue psychique et astrologique au niveau des solutions pour comme réconcilier l'homme et l'animal. Donc moi, ce qui me paraît essentiel, c'est l'importance de sortir de cette conscience trop matérialiste, trop utilitaire, hein, dans laquelle on vit actuellement, qui fait qu'on va prendre l'animal, comme tu disais Sylvie, comme un objet, mais aussi les êtres humains. Aujourd'hui, c'est comme si on a des relations très très utilitaires, hein.
Et c'est important justement que l'être humain retrouve qui il est en vrai, c'est-à-dire mieux se connaître. Donc justement pour pas s'identifier juste à sa nature animale, mais mieux prendre conscience de qui il est dans ce qu'il a de meilleur en lui. Donc justement dans ce qui l'anime, qui va lui permettre à travers des hautes qualités, des valeurs, ben justement de réussir à se dépasser pour donner le meilleur de lui. C'est en ça où l'astrologie est un outil qui est quand même privilégié. Il y a plusieurs outils, mais c'est vrai que c'est important quand on arrive sur la Terre de vouloir mieux se connaître indépendamment des conditionnements et puis de se poser des questions profondes, existentielles, de savoir quel sens je veux donner à ma vie, retrouver un sens à sa vie. La vie, c'est pas juste un chaos où le but est de consommer. On est sur Terre et on a un chemin d'évolution. Donc après, pour ceux qui connaissent peut-être très peu l'astrologie, à partir de la date, l'heure et le lieu de naissance, on peut monter une carte du ciel. Et cette carte du ciel, elle va refléter ce que l'on porte au plus profond de soi, son chemin d'évolution, avec, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un but de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie, cette carte du ciel, va nous aider à éclairer ce que l'on a à transformer. Tout à l'heure, on parlait de la nature inférieure, de la nature inconsciente en nous. Eh bien, c'est comme si l'astrologie va nous aider à voir, je dois transformer davantage la colère, des défauts, de maîtriser certains désirs qui m'empêchent d'atteindre des buts plus nobles. Donc c'est vrai que c'est un outil qui va nous aider à éclairer. Et c'est ce qui va nous permettre de davantage maîtriser cette nature en soi et à ce moment-là de se réconcilier avec cette nature plus instinctive. Là, on le voit cette année, on est en 2020 avec ce qui s'est passé, où avec cette crise sanitaire, il y a eu comme une recrudescence de la peur. Mais en fait, la peur, c'est une émotion, mais c'est aussi un instinct. Et en fait, qu'est-ce qui permet de maîtriser ces peurs? C'est justement d'éclairer, d'essayer de comprendre de quoi j'ai peur pour les dépasser. Donc ça, l'être humain, il est capable de ça. Et ça permettra d'autres solutions. Donc c'est très très important, parce que plus on va accepter cette remise en question, de maîtriser nos émotions, nos peurs, nos instincts, justement de moins être dans le fait de se laisser aller à nos désirs, plus on va transformer notre société qui sera beaucoup moins dans la surconsommation. Et tout ça, ça va nous aider à redevenir responsable et d'avoir du respect par rapport à l'animal. Si on ne fait pas ce travail en soi, on ne pourra pas retrouver ce respect profond de l'animal. Parce que en nous, justement, on refuse de faire cette remise en question. Et cette année, c'est très très important, d'autant plus, parce que il y a eu des aspects majeurs en astrologie au début de l'année 2020, et qui a comme lancé un top départ d'une remise en question profonde de notre monde, de notre humanité, où il y a très précisément, et c'est le tout début, une séparation entre un ancien monde qui est en train de s'écrouler, qui va représenter tout cet excès de matérialisme, d'individualisme, qui aujourd'hui ne peut plus continuer comme ça. Et on a pu voir les conséquences destructrices. On voit bien que la Terre, on peut pas continuer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc je pense que Sylvie, tu es d'accord par rapport justement à ce qui se passe au niveau des animaux,
tout
notamment.
À fait, oui, bien sûr.
Oui. Et c'est un moment où il y a un nouveau monde qui doit éclore. Et ce qui fait la différence, ça va être les valeurs qu'on va mettre au cœur de notre vie. Tout à l'heure, tu parlais du mode, justement, de cette invitation à changer notre mode de vie.
est-ce qu'on a besoin de se vêtir de fourrure sans prendre conscience de toute la souffrance qu'il y a derrière, de manger énormément et beaucoup 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 de viande comme ça, enfin sans se soucier. Et puis est-ce qu'on en a vraiment besoin de manger autant? Donc effectivement, c'est comme une remise en question profonde de nos valeurs au cœur de notre vie. Et c'est vrai que on a ce choix à faire, et ce choix il est décisif, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Est-ce qu'on met la peur ou l'argent qui donne la sécurité au centre de notre vie, avec les conséquences que ça peut donner pour le monde de demain? Ou est-ce qu'on choisit, et ça va demander des efforts, du courage, un petit peu, moi je refais le lien avec toutes ces actions que tu as pu énoncer, qui demandent forcément de changer des habitudes. Est-ce qu'on va mettre le vivant, le respect du vivant au centre de la vie, la confiance, la solidarité? Et forcément, ça amènera une nouvelle façon de fonctionner et un monde qui donnera des fruits différents. Donc c'est très très important, ça se joue maintenant. Et en astrologie, là, pour la fin de l'année, eh bien il va y avoir également, notamment le 19 décembre, le début, une conjonction majeure, c'est une association de planètes, Saturne et Jupiter, qui vont en fait se dérouler, qui rentrent dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, c'est le signe du futur, et puis aussi de la prochaine ère qui sera l'ère du Verseau. Et donc c'est comme si c'est le début de vraiment se questionner en profondeur sur à quel futur je veux participer. Donc quel futur je veux voir éclore, et qu'est-ce que je mets en place concrètement pour que ce futur auquel je veux participer puisse s'épanouir. Et c'est le top départ, et qui va commencer à se manifester à partir de 2021. Donc c'est vrai qu'on est à une période cruciale, avec un choix profond, et c'est le choix de l'être humain en tant qu'être adulte responsable, et forcément ça aura des conséquences pour notre futur. Donc voilà, donc moi je voulais évoquer cet aspect-là, parce que ça revient à cette connaissance de soi, cette responsabilité qui permettra de recréer un lien respectueux avec l'animal, avec la nature. Et plus on est proche de notre nature profonde, plus forcément on respecte la nature extérieure aussi. Et c'est vrai que ce futur, ça va être de vivre beaucoup plus en communion et en harmonie avec la nature. Donc ça rejoint ce que tu évoquais aussi par rapport à l'animal. Oui. Voilà en fait pour cela.
Et c'est vrai que, Sylviane, je trouve, c'est vrai que parfois on peut être découragé par le contexte ou voir les choses un peu de manière négative, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi aussi parfois. Mais c'est important de jamais se décourager, parce que comme je disais tout à l'heure, chaque action est importante. Donc même si c'est une petite action, si tout le monde l'a fait, ça peut faire la grande différence.
Voilà, oui, c'est ça. Effectivement, t'as raison. C'est des habitudes à changer, c'est une petite action. Et en même temps, si on arrive aussi à englober la dimension solidaire, qu'on n'est pas juste coupés tous les uns des autres dans un individualisme mortifère, quoi. Eh bien, on sera tous complémentaires. Et donc, il y a peut-être des personnes qui savent mieux faire certaines choses, d'autres, par exemple toi, tu es particulièrement sensible à la cause animale. Donc c'est d'y aller à fond. Moi par exemple, c'est vrai que c'est par l'astrologie, cette dimension de connaissance de soi. Et en fait, quand on s'unit, c'est comme si on va couvrir tous les aspects, tous les points de vue. Et c'est là où aujourd'hui et pour le futur, il faut vraiment de plus en plus qu'on développe une solidarité, en fait, une collaboration.
C'est ça.
Donc et ça, ces valeurs-là doivent être de plus en plus. Doit faire partie de notre vie profondément. Donc, pour cette émission, on va finir sur une bibliographie des contacts. Hein. On peut commencer par des livres. Est-ce que toi, Sylvie, tu aurais un livre à nous conseiller, peut-être justement au niveau de la communication animale, pour renforcer Ce lien, cette relation à l'animal.
Mais c'est vrai que si les personnes ne connaissent pas forcément ce que c'est la communication animale, pour faire connaissance avec cette technique, il y a le communiquer avec les animaux de Leila Del Monte, qui est pionnière en la matière. Et ça permet déjà de se faire une petite idée des cas concrets et de ce qu'on peut faire avec cette discipline.
Donc, communiquer avec les animaux.
Communiquer avec les animaux de Leila Del Monte.
D'accord, ok. Moi, ce que je peux présenter aussi, c'est le livre « L'animal intérieur », qui est le dictionnaire de la nature animale, qui a été écrit par Pierre Lassalle et des collaboratrices, où on va retrouver bien un petit peu la vie de tous les animaux et qu'est-ce que ça veut dire en miroir dans notre nature animale. Donc c'est une façon ludique de prendre conscience qu'on a une nature animale pour commencer, justement pour être beaucoup plus conscient de ses besoins et aussi de mieux la maîtriser. Donc voilà, donc là on a deux livres qui peuvent être des pistes pour les gens qui seraient intéressés pour développer en fait ce sujet. Et là, Sylvie, est-ce que tu peux maintenant donner les coordonnées de ton site s'il y a des auditeurs qui veulent te joindre et dire qu'est-ce que on peut y trouver et qu'est-ce que tu proposes?
Alors, le site, c'est www.reinenature.com.
Donc, tout attaché.
Tout attaché, Reine Nature, la nature et la reine. Alors, ce qu'on peut y trouver... Tout d'abord, c'est des reportages pédagogiques sur des professionnels, que ce soit des producteurs, des éleveurs, des thérapeutes, associations, donc toutes ces personnes qui ont envie de partager leur expérience et leur activité professionnelle en lien étroit avec le respect de l'animal et de la nature, bien sûr. Et puis, à côté de ça, je rédige aussi des articles qui peuvent aussi apporter des éléments d'information sur différents sujets, et sur des actions que chacun peut mettre en place dans son quotidien. Voilà. Et pour toutes les personnes qui ont des projets en lien avec le bien-être animal, que ce soit vidéo ou tout autre projet, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sur mon site internet.
Voilà, donc notre émission se termine maintenant. Merci Sylvie d'être venue parmi nous.
Merci Sylviane pour cette belle invitation.
Voilà, et puis donc merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, je vous dis à bientôt.